en ville musée, en parc à thème, avec une augmentation constante du nombre de touristes qui traversent cette ville, qui font pas seulement que traverser, qui y séjournent, et notamment à travers cette histoire des meublés touristiques qui pose un problème. On compte à peu près 20 000 meublés touristiques dans la ville, et ça a quand même ému les élus de Paris qui entendent lutter contre cette augmentation considérable, dans la mesure où ça transforme effectivement la ville en musée, mais aussi dans la mesure où ces locations, qui sont très rentables pour les propriétaires, c'est autant de logements de moins pour les Parisiens, pour les autochtones, pour les jeunes, enfin pour tout le monde, par rapport aux demandes notamment de logements sociaux. Et la mairie de Paris entend lutter, on se demande comment. Alors, mes deux questions, c'est l'histoire de l'embourgeoisement d'une ville, comment ça se produit, la mixité est-elle possible, les mélanges sont-ils possibles, et dans quelle mesure les pouvoirs publics, le pouvoir politique, peut décider ou infléchir de la sociologie d'une ville.
Effectivement, le processus d'embourgeoisement, pour faire simple, les spécialistes parlent de gentrification, qui est un mot anglais, pour dire un peu comment une sorte de classe populaire ou moyenne accède à des niveaux supérieurs grâce à la force du territoire, d'ailleurs. C'est une lame de fond qui a lieu depuis bientôt une quarantaine d'années. Et pour ce rapport pouvoir public, pouvoir du citoyen en termes d'équilibre, globalement, on a trois processus ou trois niveaux de ségrégation. On a la réalité, je dirais, économique. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse accéder ou pas à des logements, à la ville? Vous avez les moyens ou pas de vous payer un appartement? Un autre filtre va apparaître, c'est le filtre politique qui, lui, dans ses choix stratégiques, va essayer de mettre en place une politique plus ou moins importante de logement social. En fonction des populations qu'il a à sa disposition, en fonction de ses choix électoraux, enfin, il y a plusieurs paramètres qui vont jouer. Et on peut évidemment plus ou moins modéré, soit à la marge, soit en profondeur, tout dépend des périodes, de voir comment on peut organiser une forme de mixité sociale. Et puis, vous avez l'autre point qui fait que c'est nous, en tant qu'habitants, de par de nos actions, de nos pratiques, de la façon dont nous vivons dans la ville, eh ben, nous aussi, nous produisons la ségrégation. Et c'est là que ça devient très compliqué. C'est là où les pouvoirs publics ont beaucoup de mal à intervenir, parce que souvent, ils sont pris à leur propre piège. C'est-à-dire que quand on essaye de rehausser le niveau social d'une ville, effectivement, après les habitants qui sont là, ben, la conséquence classique, c'est que si on veut augmenter le niveau social, les habitants qui vont occuper les quartiers qui vont être désignés, ils n'ont pas envie d'avoir des prolos autour d'eux. Donc, vont créer les conditions par leur pratique de vie pour maintenir ce niveau-là. Et le paradoxe de la situation, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être majoritaire en volume de population pour avoir le pouvoir sur un territoire.
27 millions de touristes passent à Paris chaque année, dont 18 millions d'étrangers, parce que sur les 27 millions, y a des Français qui visitent leur capitale. Je me souviens, et vous vous souvenez sans doute, d'un film qui s'appelait « Un Américain à Paris » avec Jane Kelly, et qui découvre un Paris en partie imaginaire, mais la façon dont les Américains, les États-Unis, nous voyaient à cette époque, c'était un Paris pittoresque, artistique, etc., mais un Paris populaire, un Paris populo. Ce Paris populaire s'évanouit, disparaît totalement. Aujourd'hui, dans le centre de Paris, on ne voit plus de jeunes couples ni de vieux, parce qu'il y a une ségrégation générationnelle qui s'ajoute à la ségrégation sociale. Dans quelle mesure la mairie de Paris, qui a l'air pleine de bonne volonté, je pense à M. Jean-Yves Manot, qui est adjoint au maire de Paris, peut-il réellement agir ?
Un de mes amis que je vais citer, qui est un grand chercheur au CNRS, il s'appelle Jean-Pierre Lévy, grand spécialiste du logement, qui est au Centre de recherche sur l'habitat, me disait un jour, dès qu'on parle de quartier populaire, c'est déjà foutu. Maintenant, on est confronté, j'ai beau le tourner dans tous les sens, moi, mais à un vrai choix politique. Est-ce qu'on veut maintenir des gens populaires dans les quartiers populaires? Je ne suis même pas dans l'idée de se dire qu'il faut réintroduire des gens. Et je crains qu'on dise, réponde non, parce que ça devient de plus en plus difficile. Et les élus, surtout parisiens, ont laissé échapper, mais pas nos élus actuels, ça fait bientôt 20 ans ou 30 ans, laissé échapper au marché un certain nombre de réalités urbaines aux promoteurs, à des sociétés d'économie mixte qui avaient sûrement leur légitimité et leurs besoins techniques sur le moment, mais qui au final maintenant sont complètement dépassés. Et je ne vois pas comment l'élu au logement, M. Manot, si sympathique soit-il, si volontaire soit-il, peut inverser la tendance.
Et pourtant, si on regarde à grandes enjambées l'histoire de Paris, disons, depuis Haussmann,